Alors, bon après-midi à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être ici au milieu de vous. Et j'ai déjà même mangé de la nourriture française. Et vous savez bien que les Français ont la meilleure nourriture au monde, hein, vous savez ça, n'est-ce pas? Et c'est beaucoup mieux que la nourriture anglaise, en tout cas. Et vous savez ça, vous êtes au courant de ça. Et il y a Odette qui dit oui, tout à fait. Et chaque fois que je suis en Angleterre, je pense toujours à la nourriture française. J'aimerais être en France pour manger cette nourriture. Et quand on est en Angleterre, on est tout près de quelque chose de bien, mais en même temps, on est aussi éloigné de cette chose. Et quand est-ce qu'on va jusqu'à quelle heure? Là, il est 16h30. So it would be good to finish at 6:30 because at 7 they have a meeting. Ouais. Donc on devrait avoir assez de temps. Et ce que j'aimerais faire, c'est de parler de manière assez élargie, mais après je vais me focaliser sur certaines choses. Et juste pour vous donner une idée, je m'appelle Steve Schultz. Et je sers dans une équipe apostolique, dans une entité globale qui s'appelle le Congress, qui est un réseau apostolique mondial. Et ça fait partie d'une des entités du royaume qui existe là sur la Terre. Et il y en a plusieurs, mais nous, on couvre à peu près 95 nations. Et c'est pour ça que j'aimerais juste vous donner un contexte pour vous expliquer d'où je viens et pourquoi je parle. Parce qu'en fait, je suis un Américain, mais pas vraiment un Américain. Parce que je sais que vous avez déjà beaucoup d'Américains qui sont venus en France. Et c'est vrai que je viens des États-Unis, mais je considère que, en fait, mes origines sont ceux du royaume et pas des États-Unis. Et pour moi, c'est une distinction importante. Et cet après-midi, j'aimerais vous parler un peu sur le prophétique. Mais j'aimerais parler sur le prophétique dans un contexte apostolique. Et dans tous mes voyages à travers la terre, les deux domaines que je vois le plus de distorsion, c'est dans le domaine de l'apostolique et le prophétique. Et partout où je suis allé, il y a toujours eu des pasteurs qui ont eu des histoires d'horreur par rapport à le ministère prophétique et le ministère apostolique. Et donc, si vous êtes assis ici et vous dites, ah, je connais déjà à propos du prophétique et de l'apostolique, il y a des fortes chances que vous avez vu ça avec des lunettes distorsionnées. Et surtout, j'aimerais souligner ça, surtout ce qui sort des États-Unis. Parce que les États-Unis, ils ont la capacité et le pouvoir d'exporter. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce qu'ils sont en train d'exporter est juste. Et ça, c'est très vrai. Donc, si vous avez des soucis par rapport à ça, j'ai probablement eu aussi les mêmes soucis, les mêmes questions que vous aviez eues. Alors, je vais vous parler un peu de la nouvelle dimension prophétique. Et déjà, je m'excuse, ce n'est pas en français. Mais ça, c'est la faute à Martin. Il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un coupable. Et pourquoi pas celui qui vient du Congo? Et j'aimerais parler des nouveaux définisseurs de la dimension prophétique. Parce qu'avec la montée de l'apostolique, en fait, le prophétique s'est développé beaucoup plus de tout ce qu'on a connu, même il y a 10 ans en arrière. Et j'aimerais parler sur qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est là, ici en haut, là. Parce que nous avons des opérations dans plus de 95 pays à travers la Terre. Et ça ne nous rend pas arrogants, mais ça nous rend beaucoup plus conscients de ce que Dieu est en train de faire sur la Terre aujourd'hui. Et j'aimerais rapidement couvrir 5 choses clés que je trouve que Dieu est en train de faire sur la Terre aujourd'hui. Et je m'attends à ce que certains d'entre vous soyez déjà au courant de certaines de ces choses. Parce que les Français sont très intelligents. Et donc les Français ils ont un petit sens d'humour. Bon, on va avancer. Alors, premièrement, Dieu est en train de libérer des apôtres et la réforme apostolique. Et nous vivons dans un temps et une saison où Dieu est en train de souligner la nécessité d'être associé à la grâce apostolique. Et je ne parle pas du contrôle, de la manipulation, de la domination, je ne parle pas de ces choses-là. Et je parle du fonctionnement biblique de l'apôtre. Mais encore plus important, je parle surtout de la grâce que l'apôtre amène à l'Église. Je sais que vous tous croyez en la Bible. Et vous savez que Jésus l'a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Donc, nous savons qu'il n'y a pas seulement les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, il y a aussi les apôtres et les prophètes. Donc, il doit avoir un fonctionnement dans l'exactitude. S'il a donné tous les 5, on doit aussi comprendre c'est quoi leur fonctionnement. Et vous pouvez me poser la question, mais de quoi parles-tu quand tu parles de réforme apostolique? Et sur la terre aujourd'hui, moi je crois qu'il y a beaucoup de distorsions qui vit au sein même du christianisme. Et beaucoup de leaders sont très frustrés parce qu'ils ne sont pas capables d'amener en fait l'Église vers la maturité qu'ils savent et qu'ils veulent voir dans l'Église. En d'autres termes, ils sont en train de redéfinir ce que c'est que l'Église. Et à l'intérieur de ça, nous sommes en train de redéfinir comment est-ce que nous amenons l'Église à la maturité. Et je ne parle pas d'un séminaire de croissance d'Église. Et je ne parle pas de comment faire croître votre Église le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, la terre est remplie de tout ce que moi j'appelle ces fausses stratégies. Moi, je parle de comment est-ce qu'on amène la transformation humaine. Comment est-ce que tu peux bâtir quelque chose d'exact et de correct pour que Dieu regarde en disant « voilà comment moi je bâtis ». Donc nous vivons dans un temps où Dieu est en train de restaurer l'apostolique. Pas juste pour que les gens s'appellent et aient les titres d'apôtres. Mais surtout pour libérer à l'Église la compréhension de comment bâtir correctement. Comment bâtir sa vie personnelle correctement. Comment bâtir une famille correctement? Comment bâtir une église correctement? Et bien sûr, au-delà de ça, comment aller et toucher les nations? Et de le faire d'une manière juste et exacte. Et je ne veux pas prendre ce temps-là parce que chacun de ces points-là, en fait, c'est 2 heures d'enseignement. Mais je vais vous donner juste quelques points rapidement. Deuxièmement, Dieu est en train de reconfigurer ou bien de reconcevoir l'Église. Et je veux parler un peu plus de ça ce soir même à 19h.
church that's been influenced or a church that has been planted by an apostolic dimension.
Et je vais vous parler de la différence entre une église telle qu'on les connaît aujourd'hui et une église qui a été impactée par la dimension apostolique. Et troisièmement, il n'y a pas de doute que Dieu est en train de mettre l'emphase maintenant sur le royaume. Et partout où vous allez sur la terre, les gens commencent à comprendre qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle le christianisme religieux et ce qu'on appelle la dimension du royaume. Mais laissez-moi vous dire ceci, beaucoup de ces gens-là qui déclarent le royaume, mais si vous regardez attentivement, vous allez voir qu'en fait, bien qu'ils disent royaume, ils mettent juste le titre du royaume, mais dans ce qu'ils sont en train de bâtir, ça ressemble à tout ce qu'ils ont bâti les 15-20 dernières années. Donc je vous demande juste de ne pas m'écouter sur base de ce que vous connaissez déjà. Oui, il y a des parties que vous connaissez déjà qui vont se relier. Et je vais dire certaines choses qui vont vous peut-être pousser à vous gratter la tête en disant « Mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il raconte ?» C'est comme si je me gratte un peu la tête. On est comme des jumeaux. On se ressemble, hein, n'est-ce pas? Tes cheveux me ressemblent. Hein, comme... Tu es mon jumeau français. Et quatrièmement, Dieu est en train de refaçonner nos mentalités. Et laissez-moi vous dire, en tant que leader, ce que Dieu exige de nous en tant que leader, c'est que nos mentalités doivent être flexibles. Nous devons être ouverts à de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de penser, des nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes. Et nous devons aller au-delà de ce que nous connaissons, de ce monde d'église que nous connaissons depuis longtemps. Et Dieu est en train de nous bouger d'un système d'opération que j'appelle l'église vers un système d'opération que moi j'appelle système d'opération du royaume. Et ça exige qu'on ait une mentalité fraîche, nouvelle. Et ça demande à ce que les leaders deviennent comme des enfants afin de pouvoir apprendre de nouveau qu'est-ce que Dieu est en train de faire sur la terre aujourd'hui. Est-ce que ça a un sens pour vous? Et cinquièmement, Dieu est en train d'accélérer vers la fin, vers l'achèvement. Et quand tu parles de l'achèvement ou bien de la fin, tu parles de quoi? Je parle de bouger l'Église de la mortalité vers l'immortalité. Certains appellent ça le deuxième retour, le retour de Christ. Peu importe le terme que vous voulez utiliser. Comme Jésus il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père, mais aussi de finir ce pourquoi il m'a envoyé. Donc il doit y avoir une génération qui finit l'œuvre. Parce que si l'achèvement ou la fin est une espèce d'événement là dans le futur, on n'arrivera jamais. Parce qu'il faut que cette dimension de fin ou d'achèvement existe et habite dans le cœur d'une génération. Et maintenant, la base même de l'apostolique sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas le fait de planter des églises, ce n'est pas le fait de faire plus de séminaires, ce n'est pas le fait d'augmenter la taille des églises. La base même de l'apostolique aujourd'hui, c'est de créer ce désir dans le cœur du peuple de finir l'œuvre. Mais non, là, ça déjà, c'est un changement de paradigme majeur. D'arriver à une révélation que, en fait, c'est possible d'atteindre la fin. Mais non, laissez-moi juste vous dire ceci en tant que leader. Si je devais poser la question à vos membres en vous disant, en leur demandant, est-ce que vous avez un désir ardent d'amener les choses à la fin, à l'achèvement? C'est quoi leur réponse? Est-ce que ça va être un événement futuriste qui est là quelque part, qui est seulement, qui existe seulement dans une position qu'on appelle espoir, ou bien ont-ils été bâtis avec une position de foi? Pour que chaque jour qu'ils se réveillent et qu'ils réfléchissent à ça, ils se disent, on doit grandir, devenir plus mature pour que nous puissions accélérer sa venue. Et nous avons une phrase ou bien une déclaration dans notre monde que nous utilisons à travers la terre, avec des milliers d'églises. Nous disons ceci. Nous disons ceci à Dieu. Nous disons, pourquoi pas nous? Et pourquoi pas maintenant? Peut-être que ça vous paraît très très courageux, hein? Audacieux. Audacieux. Yeah, audacious, yeah. Mm-hmm. Ça, peut-être ça vous paraît audacieux. Mais il y a une génération qui doit se lever à cet endroit-là d'audacité. Il faut qu'il y ait une génération. Alors pourquoi pas nous? Et pourquoi pas maintenant? Écoutez, faire grandir des églises, ce n'est pas le sommet de notre marche avec Christ. Moi, je suis un pasteur. Parce que la plupart des pasteurs, ils pensent à grandir l'église. Mais en dessous de ça, il doit avoir un désir, une position qu'on a dans notre cœur qui est de sortir de la mortalité vers l'immortalité. Est-ce qu'on peut être d'accord que la terre est en train de bouger de plus en plus vers de plus grandes crises? Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Est-ce que les choses sont en train de devenir plus éclairées ou bien plus ténébreuses? Et je pense que si vous regardez les nouvelles, vous allez voir qu'en fait les choses deviennent de plus en plus ténébreuses. Que ce soit le terrorisme, que ce soit le réchauffement planétaire, que ce soit les crises d'énergie, ou bien les crises d'alimentation d'eau, ou bien les crises de population, et la liste ne cesse de grandir. Et la plupart des scientifiques et des chercheurs sont d'accord que d'ici 20, 25, 30 ans, il va y avoir un événement cataclysmique qui va changer en fait la nature même de la Terre. Il n'y a jamais eu un temps dans l'histoire de l'Église où l'Église a eu la restauration justement de tous ces cinq ministères. Donc il y a tout qui est en train de venir vers une confluence. Dieu est en train d'émerger. Et en même temps, Babylone aussi émerge. Et il y a un combat des derniers jours. Et en fait, ce combat-là se passe ici, entre nos deux oreilles. Comment tel un homme y pense, tel il est. Donc nous sommes en train d'être préparés. Et l'Église ne peut pas continuer à être ce qu'elle a toujours été parce qu'on ne produira pas ce que Dieu attend de l'Église. Et j'espère que votre cœur bouillonne pour ça comme le mien. Parce que moi, je n'ai pas envie de faire juste la même chose en ayant toujours les mêmes résultats. Tout le monde est d'accord avec ça, hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de focaliser vers quelque chose de plus précis. Et on peut passer une semaine ici à parler sur l'apostolique et qu'est-ce qui a émergé dans l'apostolique durant les 10 dernières années. Et bien sûr, je connais toutes vos histoires d'horreur. Et je sais que je connais les craintes en fait des pasteurs parce qu'effectivement, il y a eu des faux apôtres et autres. Donc moi-même, j'ai vécu dans des réseaux qui n'étaient pas très clairs. Donc je sais à quoi ressemble le faux. Mais les Écritures disent qu'il faut qu'il y ait du faux au milieu de vous pour prouver maintenant ce qui est juste et ce qui est vrai. Donc chaque fois que vous voyez une distorsion ou bien une dimension faussée, je vous garantis qu'il y a la vérité derrière quelque part. Et rappelez-vous, on a vu aussi beaucoup de faux pasteurs, comme on a aussi vu beaucoup de faux apôtres. Donc juste parce qu'on voit quelque chose de faux, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose de juste et d'exact avec une expression précise. Et avec la montée de l'apostolique, il y a eu maintenant une redéfinition de tous les cinq ministères. Et j'aimerais parler justement d'un de ces dons-là qui a été redéfini par l'apostolique. Donc l'apostolique est tout un sujet ici qu'on ne va même pas toucher ce soir. J'aimerais parler sur le domaine qu'on appelle le prophétique. Parce que nous avons vu que les apôtres et les prophètes ont posé les fondements. Et moi j'ai opéré dans le prophétique pour maintenant 33 ans. Et j'ai voyagé partout à travers la terre. Et j'ai une très bonne compréhension de ce qui a été amené, ce qui a été conçu dans le prophétique durant ces 30 dernières années. Et je suis sorti d'un réseau prophétique dans les années 90. Et ils ont produit des livres et du matériel qui a été transmis dans toute la terre entière. Mais bien que j'ai fait partie de ce mouvement prophétique des années 80, qui est entré dans le mouvement prophétique des années 90 et qui est toujours sur la terre aujourd'hui, c'est seulement quand j'ai touché l'apostolique que j'ai découvert vraiment quelle était la vraie dimension prophétique. Donc je ne vais pas vous parler de la théorie. Et tout ce que je vais vous dire est visible, et c'est là sur le terrain, et ça a été bâti. Et le prophétique a changé. Parce que quand le prophétique se soumet à une grâce apostolique, ça amène le prophétique vers une expression beaucoup plus puissante sur la terre. Et donc j'aimerais vraiment parler sur quels sont les définisseurs, qu'est-ce qui pousse maintenant de l'avant le prophétique aujourd'hui. C'est comme ce que je tiens en main là. Il y a une technologie là-dedans. Quand j'appuie ce bouton maintenant, ça va maintenant agir sur l'ordinateur qui va changer maintenant le diapo. Et l'apostolique est venu pour nous amener une nouvelle technologie. Et cette technologie touche aussi la dimension prophétique. Parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. C'est comme par exemple quelqu'un qui dit « je ne crois pas dans la guérison » par exemple. Alors mais si toi tu as été guéri, tu crois maintenant à la guérison. Quelqu'un va dire « moi je ne crois pas dans le parler en langue ». Ah, c'est trop tard. Et une fois que tu as expérimenté ça, tu ne peux plus retourner en arrière. Et une fois que tu as vraiment goûté à la vraie grâce apostolique, la grâce authentique, la grâce authentique et mature, une grâce qui bâtit, pas un grand ministère, pas une réputation, pas le fait de produire ou bien d'écrire beaucoup de livres, non. Je parle d'une grâce qui produit un peuple. Et qui amène de la maturité à l'intérieur du cœur de ce peuple. Une fois que tu goûtes à ça, tu ne peux plus retourner à l'ancien. Donc moi je vais vous parler de mon voyage à l'intérieur de ce prophétique. Et moi je voyageais d'église en église, en église, en église. Et je prophétisais. Ah oui, j'enseignais. Mais la plupart d'endroits où j'allais, les gens ne voulaient pas que j'enseigne. Ils disaient, non, l'enseignement, on peut l'avoir n'importe où. Nous voulons la parole de Dieu. On veut t'écouter prophétiser. Mais voici maintenant l'histoire triste. Et des fois, j'allais dans certaines églises, des fois plus de 10 fois. Par exemple, sur une période de 10 ans, j'allais pendant 10 fois dans la même église. J'allais, je prophétisais. J'allais m'asseoir avec le leadership. Et là, j'essayais de donner une perspective prophétique sur ce qu'ils pouvaient faire pour changer pour le futur. J'allais encore l'année suivante et il n'y avait rien qui avait changé. Et les gens étaient en train juste de collectionner les prophéties, les unes après les autres. Ils avaient des petits livres, mais il n'y avait rien qui changeait. Et en 1998, j'étais un prophète frustré. Parce que moi, je crois fermement que, en fait, les apôtres et les prophètes ont une très forte dimension de bâtir à l'intérieur d'eux. Donc, je suis en train de poser, en fait, les fondements de là où je vais aller. Donc, parlons de ça un peu. Et je vais essayer de renforcer ça un peu plus. Donc, vous pouvez écrire ça. Le prophétique a changé. Et la plupart du monde de l'Église n'est pas au courant de ça. Parce que la plupart du monde de l'Église n'est pas connecté correctement à la grâce apostolique. J'ai des amis à moi qui continuent à voyager à travers le monde et qui prophétisent. Mais ils ne sont pas en train de bâtir. Oui, ils peuvent enseigner. Oui, ils peuvent prophétiser. Mais il n'y a pas un système qui est mis en place pour amener la croissance et le développement. Et j'ai un ami à moi, on a commencé le ministère en 82. Et on a commencé tous les deux dans le prophétique au même moment. Et l'année passée, il était chez moi. Et il fait partie d'un réseau apostolique. Et il voyage partout à travers la terre. Je lui ai demandé. Et il est rentré il y a 2 jours même de l'Inde. Et il voyage. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que tu penses que partout où tu vas, tu es en train de bâtir quelque chose? Et il m'a posé la question, il m'a dit, mais de quoi parles-tu? Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as un système en place pour mesurer ce que tu apportes? Alors, quelle est la, je veux dire, tes activités, tu peux déterminer, c'est quoi la stratégie de tes activités? Je lui ai dit, tu fais partie d'un réseau apostolique. Alors laisse-moi te poser cette question. Est-ce que ton apôtre est au courant de ce que tu fais et là où tu vas? Est-ce que tu as un système de déploiement du prophétique dans ces églises? Est-ce que ces églises font partie de ton réseau? Ou bien est-ce que tu voyages juste comme ça partout à travers la terre? Et il dit, non, je fais les deux. Alors, je lui ai dit, parlons maintenant de ton réseau. J'ai dit, est-ce que ton apôtre est au courant de ce que tu fais? Il dit non. Et je lui ai posé la question, est-ce que ton apôtre te demande de temps en temps ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu bâtis de manière systématique dans ces églises? Est-ce que quand tu amènes le prophétique, le peuple devient plus prophétique? Il a dit non. Donc, en fait, ton apôtre ne t'a jamais demandé ce que tu fais et tu fais partie de cette équipe apostolique. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'est juste baisser la tête. Et il a dit, non, nous, n'avons pas ça. Et en fait, son apôtre, en fait, prend le prophétique et le met là sur l'étagère et le laisse faire un peu son truc à lui. Et ça, c'est le fonctionnement typique d'un réseau apostolique qui existe sur la terre aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose qui est vrai, mais je n'ai pas un moyen, on va dire, d'appuyer ça sans que vous rentrez dans le même avion que moi et que vous me suivez pendant 6 mois. Parce que le monde que nous avons bâti a l'expression la plus mature du prophétique sur la terre aujourd'hui. Et ça, c'est vrai. Et je ne le dis pas avec l'orgueil. Nous n'avons pas bâti ça, c'est Dieu qui a bâti.
Also, out of the past,
Parce que de toute cette distorsion du passé, nous avons découvert des choses en Dieu de ce qui fonctionne et de ce qui est exact. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ça ne nous rend pas supérieurs. Ça ne nous rend pas orgueilleux. Et je ne suis pas en train de me vanter de ça. Mais je suis ici pour vous déclarer qu'il y a une nouvelle expression du prophétique sur la terre aujourd'hui. Et c'est en train de sortir de cette grâce apostolique. Parce que dans le Nouveau Testament, vous voyez les apôtres et les prophètes qui marchent, qui travaillent ensemble. Vous n'avez jamais vu dans le Nouveau Testament des prophètes qui travaillent de manière indépendante. Donc je parle vraiment des vraies relations apostoliques. Pas celui que je viens de vous décrire là tout à l'heure, non, pas celui-là. C'est ce que j'appelle, on va dire, le fonctionnement faussé typique du prophétique. Les prophètes qui voyagent, ils prophétisent, ils font un peu d'enseignement. Mais à la fin, il n'y a pas de redevabilité. Il n'y a pas de stratégie de comment bâtir. Je ne sais pas d'où vous venez, quel est votre arrière-plan. Je ne sais pas comment vous relatez avec ça. Quels sont les genres de relations que vous avez? Et si je vous posais la question, quel est le système, on va dire, de livraison du prophétique systématique dans votre église? Vous allez me donner quoi comme réponse? Maintenant, rappelez-vous, la grâce qui a été donnée à tous ces cinq dons, ça n'a pas été donné pour produire des grands apôtres, ou bien des grands prophètes, ou des grands enseignants, ou des grands pasteurs, ou des grands évangélistes. Parce que Paul a dit, cette grâce m'a été donnée à moi pour vous. Parce qu'en fait, les cinq ministères, c'est le canal de distribution pour les saints. C'est vraiment ça, la distribution de la grâce. Donc quand je parle du prophétique ou bien même de l'apostolique, ou bien qu'on parle des pasteurs, on parle de la grâce qui coule à travers un homme vers le peuple. Ça a un sens? On va lire ça en anglais et puis moi je vais traduire en français. Donc la dimension prophétique au sein de cette grâce apostolique mature a toute une autre fréquence que celui de l'ordre prophétique ancien. Et j'utilise une terminologie ou bien un mot ici qu'on appelle fréquence. 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 Je travaille sur mon français. C'est une autre fréquence. Et maintenant, vous posez la question, mais de quoi parles-tu avec ce mot-là? Est-ce que ce mot-là se trouve dans la Bible? Et on utilise beaucoup de mots qui ne se trouvent pas dans la Bible. Ils n'ont pas besoin d'être dans la Bible. Mais le principe est dans la Bible. Et la fréquence, c'est comme quand, par exemple, on allume la radio. Et tout à coup, quand tu touches la bonne fréquence, là, tu captes une station de radio. Et tout le monde ici, voilà, vous avez tous des radios. Maintenant, tous les radios sont devenues des radios digitales. Hein. Vous vous rappelez de l'ancienne radio? Vous savez, avant, il fallait d'abord tourner sur le... Il fallait allumer la radio et puis tourner pour trouver justement la bonne fréquence. Donc, évidemment, le ciel est en train d'envoyer la bonne fréquence. Il dit, que ma volonté soit faite sur la terre, comme ça a déjà été fait là en haut. Donc tout l'objectif, c'est de prendre ce qu'il a déjà fait ici et de le mettre ici. Et donc quand je parle de fréquence, je parle d'une bonne distribution de cette grâce. Donc on va regarder ça rapidement. Donc les différents mouvements de Dieu, que ce soit du pentecôtisme de 1900 vers le prophétique, mouvement prophétique des années 80, tous les deux avaient le même système d'opération. Ça, c'est un fait historique. Et à cette époque-là, on avait une église sans la dimension apostolique. Donc le système d'opération était plus ou moins la même chose. Et je ne vais pas prendre du temps pour justifier ça, on va avancer. Et durant ce temps-là, ces deux mouvements-là ont mis l'emphase sur des différents dons. Surtout dans les derniers 50 ans. Par exemple, le don du pasteur a été vraiment... On a mis l'emphase dans les années 60. Et dans les années 50, c'est là où on a mis l'emphase vraiment sur le don de l'évangéliste. Et dans les années 70 et 80, on a mis l'emphase beaucoup sur le don de l'enseignant. Et dans les années 80, tout le monde le reconnaît que c'était vraiment un grand mouvement global de l'Église au niveau du prophétique. Mais il y a quelque chose dans les années 90 qui a bougé. Et à travers le prophétique, Dieu a commencé à prophétiser aux hommes. Il a commencé à libérer des hommes dans l'appel de l'apostolique. Maintenant, il y a toujours eu des apôtres dans l'Église. Et la question, c'était, en fait, on ne pouvait pas les reconnaître parce qu'on ne nous avait pas enseigné par rapport aux apôtres. Mais dans les années 90, on a commencé à avoir de la révélation à propos de ce sujet. Et ces choses qui ont déjà été déclarées dans la parole de Dieu, qui sont restées dormantes pendant des années. Et les écailles ont commencé à tomber de nos yeux, on a commencé à voir maintenant le fonctionnement de ces apôtres. De la même manière qu'on a compris les évangélistes, les pasteurs, les enseignants et les prophètes. Mais les choses ont commencé à changer. Et l'apostolique a commencé à émerger dans les années 90. Et là, je vous ai parlé avant d'une expression mature du prophétique. Laissez-moi vous montrer ceci. Et je vous donne ça comme un exemple. Dans notre monde, nous avons 8 secteurs de différents développements et l'expression du royaume. Un de ces secteurs, en fait, on appelle le secteur des communautés du royaume. Et ça, c'est là où on trouve des centaines et des centaines d'églises. Mais on a aussi un secteur qu'on appelle le secteur GIS. Et ça veut dire en fait une vue globale prophétique. Une vue globale, ouais. The Global Insight Services. Une vue perception, une vue. Une perception globale, un service de perception globale, voilà. Yeah. Ok, on va l'appeler GIS, comme ça c'est plus clair. Alors laissez-moi juste vous donner une idée de ce qu'on a bâti dans ce domaine-là pendant les 10 dernières années. Parce que lorsque l'apostolique a commencé à émerger durant les années 90, ça a commencé à changer et ça a commencé à rendre la dimension prophétique beaucoup plus mature. Et en fait, c'est ce domaine-là est géré par moi-même et un autre monsieur qui s'appelle Scott Webster. C'est nous-mêmes qui gérons ce domaine, ce secteur. Et on crée des curriculums et on crée des systèmes de développement et de formation, pas seulement pour les prophètes, mais aussi pour les individus dans les églises. Et on pourvoit des services de perception. Donc on va travailler avec des églises. On va travailler avec des entreprises. Avec des entreprises. Avec des dirigeants du gouvernement. Des fois avec des leaders dans le militaire. Et en d'autres termes, on a sorti le prophétique d'un contexte d'église. Et on est rentré dans une perspective beaucoup plus globale du royaume. Donc la voix de Dieu n'est pas limitée seulement à l'Église. Par exemple, il y a quelques mois en arrière, Scott et moi-même, on s'est assis avec un général d'une armée dans un pays. Mais non, il n'était pas en train de chercher comment aller en guerre. Mais en fait, il était en train de vouloir percevoir comment est-ce qu'il pouvait devenir un leader plus efficace dans l'armée. Donc, on est tous arrivés en Floride, à Miami. Et on a passé toute une journée à lui donner une autre perception. Par le Saint-Esprit, de ce que Dieu est en train de le dire à lui. Donc, ça couvrait lui en tant que personne. On a parlé de son mariage. On a parlé de ses enfants. On a parlé de sa carrière à l'intérieur du militaire. Et à la fin de la journée, il avait une perception beaucoup plus claire de ce que Dieu l'appelait à faire. On fait ça aussi avec les hommes d'affaires. On fait ça dans des écoles, avec des universités. Ça fait partie des choses que nous pouvons donner. Et nous avons maintenant quelque chose que nous appelons le groupe de développement de nations. Et c'est là où nous utilisons maintenant la perception prophétique pour regarder dans les nations. Et dans les derniers temps, il faut qu'il y ait un peuple sur la terre qui sait exactement ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Parce que les nations, ce qui arrive dans les nations ne doit pas nous surprendre. Donc pour moi, je ne trouve pas ça étrange que au jour du jour où nous vivons, le terrorisme est en train de grimper, de monter comme ça le fait. Parce que Ésaïe a dit dans les derniers temps que les ténèbres allaient augmenter. Mais les Écritures disent « Lève-toi et brille ». Donc ça veut dire que le temps où la lumière doit briller, va avoir les ténèbres aussi qui vont monter. Donc les services de perception maintenant vont donner une vue de ce qui se passe dans les nations aujourd'hui. Donc les gens ne peuvent pas être limités seulement par une perspective nationaliste. Donc tu vis en France, mais tu ne veux pas juste avoir une perception juste française. Tu veux avoir une perception du royaume. Parce que les Écritures disent que la terre appartient à Dieu et tout ce qui est dans la terre aussi l'appartient. Et donc les pasteurs et les leaders doivent maintenant équiper les saints pour leur permettre de comprendre quelle est la saison dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce que tu lis le journal? Comment est-ce que tu écoutes le journal? Et si tu n'as pas une perception prophétique, alors que le monde rentre dans de plus en plus de chaos, les gens vont rentrer dans des positions de peur et de crainte. Mais s'ils comprennent ce que Dieu est en train de faire sur la terre, qui fait partie de l'appel du prophétique de déclarer ces choses, c'est là qu'on peut préparer maintenant un peuple pour faire face à un temps de plus grande crise. Et la plupart des églises que je visite, en dehors de notre sphère, et à la plupart de ces gens, en fait, sont tellement mal préparés pour ce qui vient là demain. Parce que les pasteurs essaient de prêcher le message le plus nouveau, le plus frais, de semaine en semaine. Mais le peuple n'a aucune idée du contexte dans lequel ils vivent. Et ils disent, ah, ça c'est le monde là-bas dehors. Et moi, je vais juste garder mon nez dans ma Bible. Mais on ne peut plus vivre comme ça. Et voici ce que apporte l'apostolique. Ça ouvre les yeux. Et ça ouvre les yeux de notre compréhension. Pour que nous puissions comprendre le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et nous faisons un truc qu'on appelle l'initiative globale prophétique. C'est là où nous formons des prophètes. Nous avons trois bases de formation. Il y a une base à Atlanta, aux États-Unis. Une autre à Tema, au Ghana. Et un autre centre à Nairobi, au Kenya. Et après, il y a quelques années en arrière, on a sélectionné plus de 500 personnes et on a sélectionné 87 personnes de ces 500-là pour pouvoir maintenant entamer une formation. Ça, c'était des gens qui ont été recommandés par leur pasteur. Et ça fait maintenant 8 ans que nous travaillons avec ces gens. Il y en a un juste là, ici. Et voilà encore une autre là-bas. Et Joseph n'est pas encore là. Et Richard aussi va rentrer aussi dans ça bientôt. Et deux, trois ans, il y a 2, 3 ans en arrière, on a fait encore un autre rassemblement. Et on a encore rassemblé 600 personnes à travers toutes les nations. On a passé un peu de temps avec eux. On a parlé, on a enseigné, on a formé. Et avec l'aide de Dieu, on a sélectionné encore 30, 40 personnes que nous allons maintenant former. Et vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que ces gens-là, ils font? Et premièrement, ils vont nous aider maintenant à rendre service, le ministère dans nos églises. Et donc, dans notre sphère apostolique, ces gens-là, ils viennent et ils apportent le ministère prophétique. Comme ça, les pasteurs n'ont pas besoin d'inviter un prophète qu'ils ne connaissent pas. Parce que nos gaillards, ils comprennent les voies apostoliques. Ils ne prophétisent pas à moins d'avoir des bons mariages, à moins d'avoir des caractères qui ont été éprouvés. Parce que nous, on n'est pas impressionné par le don. On est plus intéressé par le Christ en toi que ton don. Et en fait, la plupart de l'Église est impressionnée plus par le don que par le reflet du caractère de Christ. Parce que la plupart des gens sont impressionnés par la précision. Ah, il m'a donné le nom et l'adresse. Il m'a dit exactement qui j'allais épouser. Et en fait, toutes ces choses-là, tu n'as même pas besoin de savoir. Tu devrais déjà connaître ton nom et tu devrais déjà connaître ton adresse. Mais nos prophètes sont formés d'une toute autre manière. On est plus intéressé à développer un être humain complet que de juste développer le prophète. Maintenant, réfléchissez à ça. Peut-être que ça va vous défier. À la fin des temps, si nous sommes tous en train de croître en lui, vers lui, et que lui était l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant, juste avant son retour, il doit avoir une génération sur la terre, un rassemblement de peuples sur la terre, je ne sais pas combien, mais il doit avoir une quantité de personnes qui existent sur la terre, qui le représentent correctement avec exactitude. Et plus vous entrez à l'image de Christ, plus tu deviens apostolique, tu deviens plus pastoral, tu as plus de dimension d'enseignant. Vous comprenez où je vais avec ça? Parce qu'à la fin des temps, la maturité qui vient à travers ces 5 dons est censée être évidencée ou bien exprimée dans l'Église. Et voici ce que nous avons découvert, les gars. Et nous avons compris que si nous pouvons prendre un saint et le faire grandir, ils deviennent en fait hautement prophétiques. Parce qu'ils ont une architecture, une façon de penser qui est correcte. Parce que Jésus disait souvent, je ne dis rien sauf à moins d'avoir entendu mon Père le dire. Je ne pense pas que c'est parce qu'il avait une voix là qui disait, c'est moi le Père qui te parle. Dis ceci aujourd'hui. C'est ça que la plupart des gens y pensent. Moi, je pense qu'il était tellement bien bâti qu'il connaissait les voies de son Père. Et parce qu'il connaissait les voies de son Père, il était capable de déclarer ces mêmes voies. Ça a un sens pour vous? Vous imaginez comment les chrétiens pourraient être si, ou bien s'ils disaient, attends, attends, je ne peux pas encore répondre à cette question. Je dois demander au Père ce qu'il dit. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas fait ça? Il parlait juste. Il était bâti à l'intérieur correctement. Et quand tu bâtis un être humain avec maturité, entendre la voix de Dieu, ça ne devient plus une question. Et vous allez réaliser que la voix de Dieu vient à travers une bonne architecture d'un être humain et d'une vie humaine. Maintenant, j'ai dit quelque chose d'assez grandiose là. Vous n'allez pas entendre ça dans aucun camp prophétique ici sur la terre. Moi, j'ai déjà fait le tour, ils n'enseignent pas ça. Ils ne comprennent pas l'importance d'avoir la bonne configuration ici. Parce que le royaume commence à l'intérieur de l'homme. Pas dans son don, pas dans ses talents, pas dans ses capacités. Ça commence d'abord avec la bonne configuration de cœur. Et on fait une autre chose qui s'appelle le projet de Néhémie. Et nous prenons en fait des équipes de prophètes et on va dans des églises qui ne sont pas dans notre monde apostolique. Par exemple, comme ce qu'on fait ici avec Bruno. Et par exemple, il dit, ah, vous avez l'air d'avoir un bon ministère prophétique. Vous comprenez ce que c'est que bâtir. Vous avez l'air d'avoir des gens qui sont matures. Est-ce que tu peux amener une équipe dans mon église et apporter le ministère prophétique à mon peuple? Et on va dire oui. On va t'envoyer quelques DVD. Et on va préparer le peuple avant d'arriver. Et il y a des DVD que vous allez regarder après que nous soyons partis. Donc ce n'est pas juste un événement, un grand événement. Ça va être un processus très stratégique de comment bâtir. Où nous mettons la ressource divine dans le cœur du peuple. Et qui permet maintenant, qui donne la perception au pasteur de savoir comment travailler avec ce peuple. Et on a aussi une école de développement prophétique. Et ça, c'est en train d'être développé en ce moment. Et on va commencer à faire des écoles régionales à travers toutes les nations. Où les gens peuvent venir une fois par mois et recevoir en fait des enseignements sur le prophétique. Et on a essayé de tester ça un peu aux États-Unis. Et on va commencer peut-être cette année à implanter ces écoles à travers toutes nos différentes régions sur la Terre. Maintenant, vous ne pouvez pas voir ça bien, mais ça montre un peu certaines de nos activités à l'intérieur de ce secteur du GIS. Donc, nous avons pris des équipes dans nos différentes églises durant ces 8 dernières années. Et en fait, nos équipes prophétiques sont à l'intérieur, il y a des gens de plus de 27 nations. Ils peuvent venir du Congo, ils peuvent venir de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, de l'Inde, des Caraïbes, des États-Unis, de l'Océanie. Donc nous avons vraiment une compagnie globale de prophètes que nous avons élevée durant ces 10 dernières années. Donc ça, c'est les photos de quelques différentes réunions prophétiques que nous avons eues. Ça, c'est une équipe qui apporte le ministère au Nigeria. Ça, c'est une autre équipe qui a apporté le ministère en Éthiopie. Ça, c'est une équipe qui a apporté le ministère au Japon. Ça, c'est la Suisse, là. Et moi, j'étais là aussi. Et toi aussi, tu étais là. Ça, c'est là-bas en Suisse. Et c'est juste des différents endroits un peu partout à travers la terre. Donc quand nous parlons du prophétique, on parle du fait qu'on a déjà bâti des choses sur le terrain. Pas juste des prophètes qui courent à travers la terre en ayant le ministère prophétique, en ayant des activités. Non, je parle vraiment des opérations et des activités stratégiques pour bâtir l'église locale. Hein? Aider l'église à bâtir. Et en fait, je suis là ici pour faire en fait des réunions stratégiques dans l'église justement de Martin. Et il m'a appelé, il m'a dit, ça fait 6 ans qu'on a, on n'a pas reçu de ministère prophétique, maintenant j'ai des membres qui se sont ajoutés. Donc il a préparé les membres pour notre visite. Ils savent comment maintenant gérer ce qui va leur être donné. Et en tant qu'ancien titulaire, il sait exactement comment travailler avec ces paroles qui vont être données. Et donc demain, de 9h à 15h, l'équipe va être dans sa communauté, en train d'apporter le ministère à tout ce peuple, tous ces gens. Ça, c'est bâtir de manière stratégique. Tout le monde, ça va? Maintenant, le prophétique a changé. Hébreux chapitre 8, verset 9 dit, la nouvelle alliance n'est pas selon l'ancienne. Et le principe qu'il faut capter, c'est que Dieu lui-même peut établir un système et il laisse ce système-là couler pendant des années et après lui-même il fait un autre système qui est différent de ce qu'il lui-même il a déjà installé.